soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie.
Pour écouter Mozart, Beethoven, Schubert, Rossini et Tutti Quanti, c'est Tutti Quanti. Pour écouter des adagio, des allegro, des moderato et tutti quanti, c'est Tutti Quanti, votre magazine consacré à la musique classique de Radio MDM. Un magazine préparé par Alain Bont avec à la technique le fidèle Arnaud. Nous continuons à feuilleter notre abécédaire de la musique classique. Nous sommes à la lettre H et à la lettre H, nous trouvons la Hongrie. La Hongrie est un pays qui a suscité beaucoup l'imaginaire des musiciens. Mais on va commencer par une page qui, elle, n'est pas du tout imaginaire, parce qu'un grand compositeur du XXe siècle, Béla Bartók, a non seulement été compositeur, mais il a été aussi probablement l'un des premiers grands ethnomusicologues, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé de façon vraiment scientifique aux différentes musiques populaires. Il s'est baladé un peu partout, un crayon et du papier à musique à la main, pour noter ses chants populaires, et il s'en est beaucoup inspiré. On va écouter tout de suite un exemple de cette traduction de la tradition musicale hongroise. Il s'agit de la suite paysanne hongroise. On va écouter le troisième mouvement qui s'appelle vieille danse au pluriel. Et on va en écouter, enfin une transcription, on ne va pas écouter la version originale, on va écouter une transcription pour flûte et piano qui sera interprétée par Marina Piccini à la flûte et Eva Kupiek au piano.
Thank you.
Alors après cette vision quasiment ethnomusicologique, on va arriver très vite dans une Hongrie un peu plus imaginaire avec un compositeur autrichien, mais à l'époque on était bien dans l'empire austro-hongrois. Ce compositeur, c'est Joseph Haydn. Haydn a été inspiré par ses musiciens hongrois et peut-être un petit peu plus d'ailleurs par les tziganes. On reviendra sur les tziganes tout à l'heure. Et c'est particulièrement sensible dans un trio, le trio en sol majeur, Obokon 15 numéro 25, dont le troisième mouvement s'appelle Rondo à l'hongaraise, autrement dit Rondo à la hongroise. On écoute ce Rondo à la hongroise interprété par le Beaux-Arts Trio. Après les tziganes assagis par le classicisme de Haydn au XVIIIe siècle, on va avancer un petit peu dans le temps, on arrive au XIXe siècle avec Johannes Brahms. Alors Brahms a surtout connu les tziganes quand il était jeune en réalité, quand il habitait encore plutôt dans le nord de l'Allemagne, plutôt à Hambourg, grand port où il y avait beaucoup de populations extrêmement différentes, et notamment donc ces tziganes, ce qu'on appellerait aujourd'hui des Roms, qui jouaient de la musique un peu partout et qui ont beaucoup influencé Brahms. Et d'ailleurs, un autre compère de Brahms qui s'appelait Rémini, qui était un violoniste tout à fait dans cette tradition-là. Alors, il y a évidemment les danses hongroises de Brahms qui sont des tubes absolus. J'ai choisi un autre exemple pour illustrer cette influence des tziganes chez la musique, dans la musique de Brahms. C'est son quatuor au piano, quatuor avec piano, pardon, donc quatuor pour violon, alto, violoncelle et piano, son opus 25. Son dernier mouvement est un rondo où, là aussi, vous allez l'entendre, les tziganes sont extrêmement présents, à la fois par la virtuosité, mais aussi par toute la nostalgie qu'ils sont capables d'évoquer. On écoute un enregistrement relativement récent qui date de 2022 de ce quatuor avec piano. C'est le Mariani Claver Quartet.
Thank you.
La Hongrie va évidemment être illustrée aussi par des compositeurs hongrois et notamment l'un des plus grands, Liszt. Compositeur hongrois, alors certes, Liszt est né en Hongrie. En fait, il a passé relativement peu de temps en Hongrie, il y a peu vécu. Liszt est quasiment un compositeur de tradition germanique et de tradition française, parce qu'il a passé énormément de temps à Paris. Pour vous donner une idée, il n'a découvert la forme hongroise de son prénom, Ferenc, que quand il avait 25 ans. Mais quand même, Liszt va s'identifier de façon extrêmement forte aux tziganes, avec une vision un peu mythifiée des tziganes, qui seraient ces personnages complètement libres des artistes dégagés de toute contingence matérielle. C'était pas forcément aussi idyllique. La présence de cette musique hongroise ou tzigane est très très forte, quasiment dans toute la musique de Liszt. C'est évidemment dans les rhapsodies hongroises qu'on la retrouve de la façon la plus manifeste. Je propose d'écouter la première de ces rhapsodies hongroises, celle qui est en la mineure. Elle sera interprétée par Alexandre Kantorov. On reste en Hongrie, mais on avance dans le temps avec le XXe siècle, avec un immense compositeur dont nous fêtions l'année dernière, en 2023, le centenaire de la naissance, Gheorghe Ligeti. Ligeti a composé... Alors, il a été vraiment formé par le Conservatoire de Budapest. Il est très, très dans la tradition de Bartók au début. Et puis après, il a exploré toutes les avant-gardes. Il a rencontré des tas de gens. Je vous propose d'écouter une pièce très originale qui s'appelle le Hungarian Rock. Pièce originale parce qu'elle est pour clavecin. C'est pas du tout évident de composer un rock hongrois pour clavecin. Vous allez entendre que ce clavecin, eh ben, il sonne de façon très très étrange. On a presque l'impression d'entendre le cymbalum. Vous savez, cet instrument à cordes frappées vraiment traditionnel de la Hongrie. La notion de rock, elle est aussi un petit peu bousculée parce que Ligeti va utiliser des rythmes extrêmement compliqués. Il n'empêche que ça bouge et que la pièce est très très séduisante. On écoute donc ce Hungarian Rock interprété par Elisabeth Sojnashka. Nous avions commencé cette évocation de la Hongrie avec Bartók. Bartók n'était pas évidemment le seul compositeur à s'intéresser à la musique traditionnelle, à la musique populaire. Il avait un collègue extrêmement talentueux, lui aussi, Zoltán Kodály. Alors ça s'écrit Kodály, mais ça se prononce bien Kodály. Et en 1926, Kodály va composer un opéra qui s'appelle Ari Janos, qui raconte les aventures d'un soldat qui se vante de tas de choses tout à fait extraordinaires et tout aussi impossibles les unes que les autres. Et puis, quelques années plus tard, il va tirer de cet opéra, Ari Janos, une suite pour orchestre dont on va entendre les deux derniers mouvements, l'intermezzo et l'entrée de l'empereur et de sa cour. Vous allez entendre que là aussi, la tradition hongroise est extrêmement forte. Au sein de l'orchestre symphonique, il y a le cymbalum, cet instrument que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est une sorte de grande table d'harmonie sur laquelle sont tendues des cordes et avec des petits marteaux, l'interprète frappe sur ces cordes, ce qui donne une sonorité tout à fait particulière. Vous allez entendre aussi des rythmes très caractéristiques de cette musique hongroise. Voici donc les deux derniers mouvements de Ari Janos, interprétés par Ferenc Fredsay, qui dirige l'orchestre de la Radio Symphonique de Berlin. Thank you. quitté la Hongrie pour continuer à feuilleter notre abécédaire, toujours à la lettre H, il y a le mot hymne. Alors, je ne vais pas terminer par la Marseillaise, pour plein de raisons. Je vous avoue, je suis pas fan de la Marseillaise, que ce soit de la musique ou des paroles. Mais peu importe, il y a un autre hymne que je voulais vous citer. Un fait historique tout à fait étrange. En 1900, la Finlande va se choisir un deuxième hymne national. Et ce deuxième hymne national, ce sera le sixième des tableaux historiques de Sibelius, qui s'appelait à ce moment-là « Éveil de la Finlande ». C'est évidemment un geste de résistance face à l'envahisseur russe. Et puis donc, ce petit poème symphonique va changer de nom et va prendre le nom de Finlandia. Quand je dis qu'il va prendre ce nom-là, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous lis un extrait des mémoires de Sibelius. « Il a fallu longtemps avant qu'on exécutât Finlandia sous le titre qu'il porte actuellement. Il fut présenté en Scandinavie sous le titre de Suomi, en Allemagne sous celui de Vaterland et en France sous celui de La Patrie. Dans l'Empire russe, il ne pouvait être joué que sous un titre qui ne fit aucune allusion au caractère patriotique. Lorsque je fus invité à le diriger à Tallinn et à Riga en 1904, je dus l'intituler impromptu. » Je propose donc d'écouter ce Finlandia opus 26 de Sibelius. C'est l'orchestre philharmonique de Berlin qui est dirigé par Hans Rosbode. Avec Finlandia de Sibelius se termine ce numéro de Tutti Quanti. On se retrouve, si vous en êtes d'accord, dans 15 jours. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ce soir c'est fête, ce soir j'ai invité Mozart, Beethoven, Schubert et Rossini. Autour d'un verre, au chaud dans ma chambre, on va se jouer une petite mélodie. Et sur les notes, on oubliera le monde qui n'en finit pas de tout.